que vous faites, c'est de l'intimidation.
Bonjour, monsieur.
C'est ça, la démocratie, franchement. Répondez-moi. Est-ce que c'est ça la...
Monsieur Esposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade, et moins cher vous rachetez les appartements.
Azine, Fangir Cab.
Bonjour. Ah,
bonjour.
On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur.
Avec un plan de rénovation sur 31 mois.
Ils ont besoin qu'on leur tende la main.
Une main, 63 millions d'euros, Clément.
La question, c'est on fait quoi, maintenant?
Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire.
Vous avez peur de quoi exactement? D'assumer un peu d'ambition? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin.
Une chose.
Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous.
Avec?
Le Premier ministre.
Nous avons la chance ce soir d'être avec Isabelle Huppert dans une chambre d'hôtel non loin de l'Élysée, à l'occasion d'une double actualité, le film Les Promesses qui va bientôt sortir et la cerisée de Tchekhov dans la mise en scène de Thiago Rodriguez au théâtre de l'Odéon, Europe. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera Pomme. Vous avez l'air heureuse, je me trompe?
Oh, c'est une bonne manière de commencer. Oui, ça va.
Comment c'est possible que ça aille avec tout le boulot que vous avez?
Ah bah, ça irait encore moins bien s'il n'y avait pas tout ce boulot.
Ah bon?
Bah, le travail, ça n'a jamais été une source de malheur, quand même.
Ouais, mais quand il y en a beaucoup, c'est pas une source
d'angoisse?
C'est encore
mieux. C'est une source de double bonheur.
Donc le boulot d'abord?
Le boulot, pas d'abord, le boulot aussi.
Je me souviens d'un temps assez lointain où vous aviez décidé d'être aussi productrice, de faire des achats, de livres, parce que vous êtes une grande lectrice et que vous aviez acheté les droits d'un livre magnifique qui s'intitulait « L'inondation mm-hmm. » d'un auteur qui s'appelait Zamiatine. Et c'était pas une période super géniale pour vous, mais vous aviez pris le destin en main en disant « ben voilà, je vais continuer à faire ce que j'aime ».
Non, non, c'était une période assez normale. Et le film s'est fait, effectivement, avec Igor Minaïev. Et c'était un très beau film. C'était un roman génial, L'inondation, d'un très grand auteur.
Et ça a commencé quand, la lecture ?
Assez tôt, j'ai l'impression qu'on lisait plus quand moi j'étais enfant et adolescente, en tous les cas. Je lis pas autant que j'aimerais, mais j'imagine pas une vie sans lire et une vie sans livre.
Et le premier livre ?
C'est peut-être plutôt un livre que j'ai entendu, parce que je pense que c'était La Petite Sirène et
c'est
La Petite Fille aux Allumettes. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si c'était chez vous l'autre jour, qui parlait des contes d'Andersen comme des livres fondateurs.
Mais entendu, c'est intéressant. Ça
oui.
veut dire que l'émotion passait par la voix quand vous étiez
oui.
petite.
J'écoutais des livres, déjà. Alors que les livres audio, comme on dit, c'est venu beaucoup plus tard. Mais je me souviens de l'avoir entendu d'abord, La Petite Sirène.
Est-ce qu'on apprend d'ailleurs à lire, ou est-ce qu'on ne se provoque pas un cheminement intérieur en choisissant petit à petit son mode de lecture ?
À lire des livres, oui, bien sûr. À lire des mots, ça, on apprend comme tout le monde à l'école, j'imagine. À lire des livres, ah oui, c'est au gré de ce qu'on entend, des livres, je ne sais pas. C'est varié, hein, tout un chemin de lecture. Parfois, j'y pense, souvent je me dis, j'aurais jamais lu autant de livres que je voudrais. On ne peut pas tout lire. C'est triste, d'une certaine manière. C'est un monde tellement vaste, c'est un continent, c'est des continents. Mais peut-être il suffit d'un livre, ça suffit, pour vous aider à vivre.
Est-ce une des raisons pour lesquelles vous avez choisi votre métier ?
La lecture ?
Non, mais l'amour des mots ?
Non. Pas spécialement, c'est drôle parce que là aussi j'entendais je sais plus qui parler du métier d'acteur à travers l'amour des mots, et je me suis fait cette réflexion au moment où j'entendais ça. Je me suis dit que c'était pas tellement l'amour des textes, l'amour des mots, l'amour des auteurs, de la littérature. Non, c'était complètement autre chose. Ça n'avait rien à voir avec les mots en fait. Peut-être parce que, enfin j'ai fait aussi du théâtre au début, mais au fond... J'ai plus commencé par le cinéma où les mots, ce qu'on taisait était aussi, voire même parfois souvent plus important que ce qu'on disait. Parce que le cinéma permet peut-être presque une supériorité du silence sur le langage. Le théâtre le permet aussi d'ailleurs. C'est que souvent on ne s'y autorise pas. C'est difficile de s'autoriser au silence au théâtre. On se dit, je ne sais pas, on ne s'y autorise pas. On pense qu'on n'a pas le droit. Qu'il faut tout le temps remplir l'espace avec des mots, alors qu'en fait, c'est très très beau aussi au théâtre de prendre des silences. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard avec Claude Régis. Et j'avais commencé déjà à l'apprendre avec Peter Zadek, avec qui j'ai fait Mesure pour mesure, qui en disait long, si je puis dire, sur la beauté du silence. Et de la voix mezzo-voce aussi, de la voix qu'on entendait à peine.
Dans la vie aussi, c'est difficile de faire silence, parce que les gens pensent que vous ne pensez rien quand vous vous taisez. Mais je me souviens, je crois que c'était la première apparition au cinéma, c'était La Dentelière.
Oui.
Et dans La Dentelière, effectivement, c'était le silence. Votre rôle tenait au silence.
C'était à la fois
l'effacement presque.
Oui, c'était à la fois ça c'était la richesse du rôle et la punition du personnage, parce que c'est ça qui la perdait. C'est ça qui m'a fait gagner moi comme actrice. C'est ça qui la perdait comme personnage, puisque c'est son silence et son capacité à parler qui la rendait invisible et inaudible, ce qu'elle était, aux yeux de cet homme, inintéressante aussi.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé de voix ?
Eh bien, sûrement, c'est pas qu'une impression, c'est une impression, puisque c'est quelque chose dont je suis pas forcément consciente à tous les moments. Heureusement, d'ailleurs, tout le monde change de voix. VOIX, aussi parfois VOIE, ça c'est encore autre chose. Les gens qui changent de voix, c'est toujours intéressant. Mais changer de voix, sûrement, oui, quand je m'entends par hasard dans les voix d'avant, oui, j'ai plus la même voix. Elle est moins posée, elle est moins grave. plus timide.
Et aujourd'hui, elle est plus affirmée.
Je pense, oui. Oui, elle est plus, elle est plus forte, oui, sûrement. Mais c'est, encore une fois, je pense que c'est l'évolution quand même assez banale de toute voix, j'ai l'impression.
C'est peut-être aussi l'évolution d'une vision du métier, Isabelle Huppert, parce que quand on vous a vu l'été dernier, puis qu'on vous revoit aujourd'hui au Théâtre de l'Odéon à Paris, mais qu'on vous a vu dans la cour d'honneur, dans cet immense espace avec... le ciel au-dessus et puis cette grande voûte du ciel. Vous avancez sur le plateau nu du théâtre et dire toute seule une réplique de la Cerisée de Tchekhov. On se dit devant 3500 personnes, on se dit d'où elle vient cette voix?
Elle vient de moi déjà. Et je me pose évidemment pas la question d'où il faut la faire venir. Parce que si je me posais la question, dans le contexte que vous décrivez, par exemple, la voix, elle n'oserait même pas s'émettre, évidemment. Donc elle vient naturellement. C'est vraiment des questions qu'on se pose, que moi, d'ailleurs, moi aussi, je peux me la poser si j'étais ma propre spectatrice. Mais c'est vraiment une question qu'on se pose absolument pas. Puisque elle vient du contexte, elle vient de chez Tchekhov, elle vient de chez Thiago Rodriguez, elle vient du travail qu'on a fait ensemble, elle vient de plein d'horizons différents, et puis elle est là, tout simplement. Mais on ne se pose absolument pas la question de quelque chose qu'il faudrait surmonter pour la faire entendre, pas du tout.
Sinon, et cette voix, elle est adressée à quelqu'un ? Ou elle est adressée aux comédiens, ou elle est adressée à chacun d'entre nous?
Elle est adressée à une partie de soi-même. Vous savez, c'est toujours cette phrase de Grotowski qui me plaît, qui dit « Jouer, c'est pas quelque chose qui se passe entre soi et le spectateur, contre toute attente. C'est pas quelque chose qui se passe entre soi et son partenaire. C'est pas quelque chose qui se passe entre soi et soi. Mais c'est quelque chose qui se passe entre soi et quelque chose de très mystérieux au-dessus de soi. » Je ne pense pas que ça soit une phrase mystique, hein, mais quelque chose de très mystérieux, tu te sois. Donc elle vient, oui, de quelque part près de soi, en soi, juste au-dessus de soi, comme dit Grotowski.
Je vous propose d'écouter de la voix de Nathalie Sarraute. Je sais que vous êtes l'actrice de Nathalie Sarraute. Elle va parler de l'écriture et des tropismes. C'est une archive INA du 29 mai 1976.
Ça ne se fait pas comme ça en plusieurs étapes. C'est une espèce de chose, de sensation, comme des sensations poétiques, une sorte de percée de l'apparence, si vous voulez. Et alors, à un moment donné, il faut que cette sensation soit poussée assez loin, qu'elle soit assez forte. Et alors, à ce moment-là, elle pousse, si vous voulez, les mots, elle donne un mouvement à la phrase, elle fait trouver des images et elle se déploie jusqu'au moment où elle aboutit au dialogue. Elle aboutit ou elle n'aboutit pas, parce que quelquefois elle reste à l'intérieur. Mais quand elle aboutit au dialogue, elle projette, si vous voulez, le dialogue à la surface. Alors à ce moment-là, ce dialogue doit paraître tout à fait naturel. Il doit avoir l'apparence du dialogue habituel, hein, parce qu'autrement... on serait hors de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer quelque chose qui, justement, comme vous le disiez très bien, paraît banal et quotidien, et qui ne l'est pas. Toute la littérature est pleine, mais ça existe aussi bien chez Flaubert ou chez Stendhal, par tout ce qu'il y a là. Là, c'est que ça a été pris en dehors, si vous voulez, des formes romanesques habituelles, presque d'une manière abstraite. C'est ce mouvement en lui-même qui apparaît. Ce mouvement est là, c'est ce mouvement qui constitue l'action des livres. C'est l'action dramatique est constituée par ces mouvements qui d'habitude passaient, n'est-ce pas, parmi tout le reste. Il y avait des personnages, il y avait des quantités de choses, il y avait de la psychologie, puis il y avait aussi quelquefois des mouvements intérieurs.
Et quand je pense à vous, à votre travail, à votre évolution, Isabelle Huppert, je me dis que, outre... Je sais que vous êtes une fervente admiratrice de Nathalie Sarraute et depuis longtemps. Je me dis que ce terme de tropisme et de recherche, justement, d'intériorité, convient assez bien à votre manière de voir votre métier.
Oui, sauf que c'est peut-être sans doute plus vrai dans le cas d'un écrivain ou d'une écrivaine qui est seule devant sa page blanche. Moi, mon intériorité, si elle n'est pas relayée par les multiples rencontres que je peux faire ou solliciter ou désirer et faire advenir, hein, je suis aussi très responsable de beaucoup de rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, elle n'existe pas. Alors qu'un écrivain, il n'existe que par lui-même.
Vous avez besoin des autres ?
Oui, par la fonction même de ce que je fais. C'est ni une plainte, ni un exploit, mais évidemment que j'ai besoin des autres.
Et à quel moment de votre existence, parce que c'était très jeune d'ailleurs, ça a basculé du côté de votre métier, c'est-à-dire le métier, dans son acception la plus positive, c'est être reconnu, pouvoir faire son travail, pouvoir prendre des rôles qui vous plaisent. Mais dans son côté le plus noir, c'est aussi attendre quelquefois dans des moments qui paraissent très très longs et douter de soi en permanence parce qu'il faut être désiré. Vous comprenez ce mot d'être désiré ?
Bien sûr, je le comprends parce que ma vie, elle n'est faite que de ça, de désirer moi-même d'ailleurs. Donc je peux comprendre ce que ça veut dire que d'être désiré. J'ai eu la chance de l'avoir été souvent. Je peux comprendre ce que ça veut dire de ne pas l'être, oui, bien sûr. Après, on n'est jamais autant désiré que ce que l'on voudrait, ni ça va toujours avec le manque, le désir. Et c'est sans doute tant mieux, d'ailleurs, parce que c'est aussi c'est ça qui vous fait, au fond, qui vous fait continuer. Peut-être que si le désir était comblé intégralement, on aurait plutôt envie de s'arrêter.
Et ça s'allume, le désir, si on ne va pas vers l'autre Enfin, il y a un côté où il faut aller le chercher.
Pas forcément. Parfois, il peut arriver sans qu'on s'y attende. Ça, c'est agréable aussi. Mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mauvais, de bon désir. Il arrive ou pas. Que ce soit qu'il ait été provoqué, qu'il soit inattendu, que ce soit le fruit du hasard. Enfin, surtout dans le cadre d'une actrice ou d'un acteur, il doit être. Enfin, souvent, c'est presque plus que du désir. Il faut qu'il soit aimé, il faut qu'il soit
respecté.
Il faut avoir envie de. D'ailleurs, quand on est metteur en scène, ça doit être un sentiment aussi assez puissant d'avoir vraiment de s'intéresser à un visage, de vouloir filmer un visage, de vouloir filmer un corps, de vouloir entendre une voix. C'est tout ça. Voilà. Il faut plaire,
mais ça veut dire quoi, plaire ?
Ça veut dire ça. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui décide que la manière dont vous bougez, dont vous parlez, dont vous regardez. Ça lui plaît, ou ça lui plaît par rapport à quelque chose qu'il a envie de dire.
C'est pas plaire dans l'acception la plus banale, c'est s'insérer dans une vision de l'autre.
Mais c'est aussi dans l'acception la plus banale, mais la banalité, elle a aussi sa vertu. C'est aussi plaire de la manière la plus simple, c'est plaire.
Ouais, mais c'est très difficile.
Mais oui, c'est difficile.
C'est enfin, un c'est art difficile. Ou une technique ?
Une technique, je crois pas quand même. C'est ni un art ni une technique, c'est quelque chose qui arrive ou pas, c'est tout. Donc c'est pas quelque chose sur laquelle on a beaucoup de prise non plus. Mais après, on peut, encore une fois, il y a aussi des choses qu'on peut faire arriver, qu'on peut faire advenir quand même.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi se mettre à la place de l'autre ? Quand on revoit votre carrière, Isabelle Huppert, on se dit que vous avez tourné avec des personnes de nationalités différentes, de visions du monde différentes, d'univers civilisationnels complètement différents. Et à chaque fois, vous vous mettez dans les pas de celui qui vous a choisi. Je prends un exemple, Aung San Suu. Aung San Suu, c'était pas donné d'avance que vous alliez vous entendre à ce point-là et que vous alliez devenir pas seulement un personnage, mais une personne de son univers. Et donc, je me demande si cette espèce de continuité de votre travail, c'est pas la confiance que vous donnez aux autres qui vous ont choisi.
Oui, c'est ça. C'est aussi être un petit peu perméable à la musique de l'autre. Quand je pars en Corée tourner avec Aung San Suu, il y a quelque chose de son univers, de sa manière d'être, qui résonne en moi et qui me... Et auquel je peux répondre aussi, puisque c'est un peu musical, c'est comme un accord qui se fait. Puisque vous prenez l'exemple d'Aung San Suu, tout commençait depuis le départ, un peu comme dans un film d'Aung San Suu. Donc le hors-champ était déjà fabriquait déjà du champ, si je puis dire, parce que au cinéma c'est ça aussi. On comprend pas souvent assez comment le film il commence avant de commencer d'une certaine manière. Et il y avait quelque chose de, il y avait une poésie, il y avait quelque chose d'insolite dès le départ dans cette aventure, ce qui fait que le film était un peu la trace, presque un peu involontaire, de quelque chose qui était déjà en mouvement au tout départ de notre rencontre.
Vous êtes une joueuse au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous aimez jouer, pas seulement la comédie, pas jouer pour votre métier, mais dans votre vie personnelle, vous devez être joueuse.
Oui, on peut le dire, on peut l'appeler comme ça. Oui, c'est du jeu. C'est oui, parce qu'il y a quelque chose de, il y a un enjeu évidemment de rencontrer quelqu'un et et d'imaginer qu'on va pouvoir terminer par faire un film ensemble. Mais il y a un enjeu aussi un peu léger. Voilà, il n'y a pas de rien n'est très grave finalement. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire que je suis joueuse. Curieuse en tous les cas, de l'être.
Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui, je pense, a été très important dans votre itinéraire. Vous avez prononcé son nom tout à l'heure, il s'agit de Claude Régis. Il va parler de son travail de metteur en scène. C'est une archivina du 22 février 1973.
Je crois qu'un metteur en scène, c'est d'abord quelqu'un qui ne veut pas être metteur en scène, qui ne veut pas faire de la mise en scène. Pour moi, une des grandes vertus est la passivité. La passivité à condition n'est supportable que si on est extrêmement riche d'une vie intérieure. Je veux dire que j'applique ça pour moi et que je le fais aussi appliquer aux acteurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des spectacles naturellement qui exigent des représentations visuelles très importantes et des tonnes de décors et des effets de lumière très nombreux. On ne peut pas nier qu'il y a toute une forme de théâtre très intéressante dans ce sens-là. Mais il est évident que je crois que là où je réussis le mieux, parce que en fait c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce qui correspond le plus à ma vérité, et je pense qu'en vieillissant on décante de plus en plus et on se rapproche de plus en plus de ce qui est essentiel en vous. Et ce qui est essentiel en moi, c'est d'essayer, justement, d'autant plus que toute la civilisation moderne crée un monde complètement artificiel et complètement hypocrite dans un mode de pensée et de vie complètement imposé aux gens par l'extérieur, je crois qu'il est de plus en plus important de retrouver un contact avec une vie intérieure profonde, et cela au-delà même de tout ce qui est connu. On peut l'atteindre que par l'instinct, que par la passivité, c'est-à-dire en se gardant de se raccrocher à des choses que nous connaissons déjà, que nous savons faire, et de profiter de tous les impondérables, de tout ce qui peut se créer un après-midi quand 4 ou 5 personnes sont réunies dans une certaine pièce pour répéter.
Je fais partie des personnes qui ont été voir, je crois, 6 fois, 7 fois,
ah oui.
Peut-être 8 fois. Votre interprétation de Sarah Kane au Théâtre des Bouffes du Nord, c'était il y a bien longtemps. Et pourtant, les images me restent inscrites dans la mémoire, comme elles restent inscrites dans la mémoire des personnes qui étaient là. Vous, au centre du plateau, au circulaire, immobile, les deux pieds sur terre, bien campés, et disant le texte de Sarah Kane. Est-ce que cette interprétation de ce texte qui était âpre, qui disait les difficultés de l'existence, le désir de mourir, est-ce qu'on peut dire que on habite un texte comme vous avez habité celui de Sarah Kane?
Oui, on habite, mais c'était une grande maison. Jouer un rôle, c'est toujours habiter une maison. C'est toujours...
Toutes les pièces de la maison.
Oui, surtout le grenier et la cave, mais c'est toutes les pièces de la maison, oui. La cuisine, le salon, le jardin aussi. Alors, Sarah Kane, oui, c'était une aventure tellement particulière. De travailler avec Claude Régis, c'était évidemment toujours une aventure particulière. J'ai en mémoire cette manière qu'il avait de parler du silence, de la manière dont les mots devaient résonner, la manière dont il disait que, par exemple, que son amour de la musique, en disant que la musique était non-sensique, c'est-à-dire la musique ne faisait pas sens, au sens où le mot ou le langage faisait sens, et que c'était cette absence de sens qui faisait qu'elle était ouverte, puisqu'il n'y avait pas, elle n'était pas fermée, enfermée dans un sens. Et au fond, la manière dont il abordait le texte, c'était un peu ça, justement. C'était presque de retirer le sens littéral au mot, un peu comme peut-être peut le faire quelqu'un comme Bob Wilson, pour que tout d'un coup, dans la compréhension, dans la réception du mot, il y ait autre chose que la littéralité du mot, mais qu'il y ait le grain de la voix, le silence qui précède ou qui succède. C'était ça son approche du théâtre à Claude Régis. Ce qui me revient à chaque fois que je pense à ce spectacle, à chaque fois que je vais au Théâtre des Bouffes du Nord, c'est comment on est arrivé à cette station. J'étais à une position unique et immobile, donc c'était comme une station pendant 2 heures. Et comment on y est arrivé? Et on y est arrivé par hasard. Je trouve que ça mérite d'être raconté, parce que quand on se souvient de ce spectacle, on pourrait penser que ça a été le fruit d'une réflexion très, très théorique, très élaborée. En fait, c'est arrivé complètement par hasard. Peu de temps avant le début du spectacle, on a répété très longtemps, car on répétait très longtemps avec Claude Régis. Donc on a fait beaucoup de lectures, d'abord à la table, et pendant ces 2 mois de répétition, j'explorais en fait le champ des possibles, c'est-à-dire le plateau du théâtre, dans tous ses recoins, dans toutes ses possibilités. Et puis, à peu près 8 jours avant la fin, je me faisais pas du tout de... J'avais aucun doute qu'on allait trouver, mais enfin... Le fait est qu'on n'avait toujours pas trouvé la mise en place, disons, la mise en scène même. Et puis, je repassais toujours par ce point, et puis je m'y attardais de plus en plus. Et puis un jour, il m'a regardé, il m'a dit, bon, ben voilà, ça sera comme ça, c'est là. Ah, puisque tu t'arrêtes tout le temps là, eh ben, on va décider que c'est là que va se passer la pièce. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation, à cette posture qui était une affirmation tellement forte des mots de Sarah-Ken et de la pièce en général. L'idée que je sois immobile pendant 2 heures, parce que finalement, c'est ce qu'on retenait du spectacle.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Isabelle Huppert, Frank Sinatra et Bing Crosby.
I have heard among this clan, you are called a forgotten man.
Is that what they're saying?
Well, did you ever?
What a swell party this is.
And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love?
Sounds like pure soap opera.
I may cry.
Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frails, what frocks,
what broads,
what furs, what rocks.
They're beautiful.
Why, I've never seen such gaiety.
Neither did I.
It's all just too exquis, really.
This French champagne.
Domestic.
So good for the brain.
That's what I was gonna say.
You know, you're a brilliant fellow.
Thank you.
Drink up, Jack.
Please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche.
No.
Don't worry, she's a game girl, you know. Got up and finished fourth.
This kid's got guts.
Having a nice time? Grab a line.
Have you heard that Mimsy Star?
Oh, what now?
She got pinched in the Astor Bar.
Sauced again, eh?
She was stoned.
Well, did you ever?
Never.
What a swell party this is.
It's great.
Oh, it's great.
It's grand.
So grand.
It's wonderland.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
yada yada da.
We sing so rare,
so rare,
like old Camembert, like ba ba rum,
ba 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 bum.
Don't dig that kind of crooning, chum.
You must be one of the newer fellas.
Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell again, elegant party this is.
I drink to your health.
Nah, let's drink to your wealth.
You're my bon ami.
Hey, that's French.
A liberty
fraternity. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. Swell party, swell again, elegant party, this is.
Pourquoi ce choix?
Je sais pas, ça m'est venu comme ça complètement par hasard. C'est un film que j'adore, c'est High Society avec Grace Kelly. Enfin, il y a plusieurs moments musicaux que j'adore dans ce film. C'est d'abord la chanson du générique interprétée par Louis Armstrong. Et puis cette chanson entre Frank Sinatra et Bing Crosby. Et c'est surtout, c'est un film que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. Et c'est surtout quand ils disent, emploie le mot collide. Je sais pas, il y a quelque chose quand il dit collide with Mars. Que les planètes se rentrent dedans et rentrent dans Mars. Collide with Mars. C'est la résonance du mot collide qui me plaît.
Vous avez dit tout à l'heure que le côté trouvaille, par exemple, de Claude Régis, qui était un très grand metteur en scène, venait de l'observation qu'il avait faite de vos déplacements physiques dans l'espace des Bouffes du Nord. Moi, je voulais vous demander si vous vous sentiez plutôt muse ou plutôt comme servante à l'intérieur de votre métier.
Servante, pas tellement. Quand on rentre dans la maison du rôle et quand on rentre dans la maison de quelqu'un comme Bob Wilson et de quelqu'un comme Claude Régis, parce que c'est eux aussi qui habitent ces maisons. Et ce n'est pas des maisons, hein, c'est des châteaux, c'est des maisons sans murs presque. Donc moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être... Il n'y a aucun mot comme ça qui impliquerait une sorte de... Oui, de soumission. Ou de, c'est pas ça du tout qui est en jeu quand je fais un travail avec Bob Wilson ou avec Claude Régis ou quiconque d'ailleurs avec lesquels des metteurs en scène au théâtre avec lesquels je travaille, non, c'est rentrer dans leur chemin.
C'est une démarche intellectuelle.
C'est une démarche un peu abstraite souvent. C'est une démarche qui consiste à comprendre l'abstraction, ça c'est vrai. Et le théâtre. Et pas que le théâtre, parfois le cinéma aussi, c'est de la forme, donc c'est de l'abstraction, donc c'est être sensible à ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends bien. Et je crois que si on ne le comprend pas, on ne peut pas travailler avec quelqu'un comme Bob Wilson.
Et on ne peut pas travailler non plus peut-être avec quelqu'un comme Haneke.
Sans doute. Bien que le cinéma quand même répond moins, je pense, à cette injonction d'abstraction. Que le théâtre, le cinéma n'est pas forcément plus réaliste, donc c'est aussi une reconstruction du réel d'une certaine manière, surtout dans un film comme Haneke, mais on est quand même plus proche d'une forme qui est proche de notre réalité que évidemment dans un spectacle de Bob Wilson où la langue est complètement concassée, c'est comme si on la mettait dans un shaker comme ça et puis que où le sens premier échappe quand même dans un premier temps en tous les cas. Si on est que dans l'exigence d'une réponse concrète, on peut pas trouver de réponse à ce moment-là, c'est impossible.
Et ça arrive qu'on comprenne pas l'autre.
Moi, ça m'arrive pas, mais ça peut arriver, j'imagine, bien sûr. ce qui peut se passer, c'est de la peur tout d'un coup. Les deux écueils qu'on peut rencontrer quand on fait ce qu'on fait, quand on est acteur, pas quand on est acteur, c'est finalement avoir le sentiment qu'on n'est pas libre ou avoir peur. C'est deux sentiments désagréables ou vraiment qui vous donnent le sentiment qu'on n'est plus à sa place si on a peur et qu'on n'est pas libre.
Mais ça vous est déjà arrivé ?
Non, justement, ça n'est jamais arrivé. Ni de me sentir pas libre, ni d'avoir peur. Sauf le trac, mais ça, on ne parle pas de cette peur-là, qui c'est encore complètement autre chose, le trac. Mais d'avoir peur ou de ne pas comprendre, non, ça ne m'est jamais arrivé.
Peut-être parce que vous partiez avant, dans les cas où ça aurait pu commencer, vous choisissez.
Je suis jamais partie, non. J'ai jamais eu la nécessité de partir. Peut-être ça va arriver, mais ça m'est jamais arrivé. De partir
parce que vous ne sentiez pas bien, oui.
Non, ça m'est jamais arrivé. Ça doit être une épreuve, ça doit être très très difficile de sentir que, oui, de sentir ça. C'est une déception, ça m'est jamais arrivé, vraiment.
Alors il y a vous, il y a votre corps, il y a votre visage, il y a votre image, il y a votre notoriété, il y a votre célébrité. Et puis, il y a la manière dont vous acceptez d'être observé, d'être regardé. Qu'est-ce que ça veut dire être regardé ? Je me souviens aussi d'une exposition qui avait lieu, je crois, en 2016, dans le cadre du Festival d'automne à Paris, magnifique, faite par la photographe artiste plasticienne Roni Horn. Je vous propose de l'écouter sur son travail avec vous.
L'identité est une affectation sociale qui, au fond, n'a pas grand-chose à voir avec ce à quoi elle renvoie. J'ai travaillé avec Isabelle Huppert et j'avais deux appareils photo braqués sur elle dans un studio à Paris. Et tous les matins, on devait se retrouver et on devait tirer hors du chapeau un personnage. L'idée venait d'elle. Par exemple, un matin, ça allait être Marie, le personnage d'un film de Claude Chabrol, dans lequel elle joue l'une des dernières femmes à avoir été exécutée pour avoir pratiqué l'avortement. Et donc, ce que je lui demandais de faire, c'était de rentrer à chaque fois dans un rôle qu'elle avait pu interpréter au cinéma. Cela donne une image qui est très discutable, vous savez. Est-ce que c'est Isabelle Huppert ? Est-ce que c'est Isabelle Huppert jouant à Isabelle Huppert ? Est-ce que c'est Isabelle Huppert dans la peau de Marie ? Est-ce que c'est Marie dans la peau d'Isabelle Huppert ? Et donc tout ça, c'est le portrait d'une image.
Alors là, on atteint quelque chose d'un peu, peut-être en tout cas, compliqué à comprendre. Comment vous faites abstraction de vous-même pour vous donner, pour donner votre image ? Est-ce que vous êtes dédoublé ? Est-ce que vous êtes plusieurs personnes ? Est-ce que vous posez ?
Mais j'ai pas l'impression de donner quoi que ce soit, ni qu'on me prenne quoi que ce soit. C'est juste une image. Enfin, c'est pas. Donc, et dans le cas en plus de cette aventure avec Roni Horn, ça passait par un travail très très concret. Elle me demandait de retrouver des états qui m'avaient traversé pendant certains rôles. C'était très, très concret. Ça a pris du temps, mais je savais qui elle était, et je sais qu'elle fait un travail sur la répétition. Enfin, c'est pour ça qu'on la connaît, c'est pour ça qu'on peut l'aimer aussi. Quelque chose d'un peu obsessionnel, oui. Elle a photographié beaucoup de gens avant moi sur ce mode opératoire, si je peux dire. Et voilà, donc c'est ça qu'elle voulait faire. Je savais que c'était ça qu'on allait faire. Et encore une fois, ça passait par une expérience assez sensible.
Une expérience de jeu, en fait.
Oui, de jeu, tout simplement. Si elle l'avait fait maintenant, elle me demanderait de retrouver voilà, ce qui m'animait pendant que je jouais la Cerisay, ou ce qui m'animait pendant que je tournais Les Promesses, par exemple.
Eh ben, on y va, alors. Qu'est-ce qui vous animait pendant que vous jouiez Les Promesses ? Donc, le film va sortir dans très peu de temps. Vous interprétez de manière assez déterminée, courageuse. Vous marchez beaucoup, d'ailleurs, dans le film, et vous parlez peu. Mais quand vous parlez, votre parole est entendue, elle n'est pas forcément aimable. Vous interprétez le rôle d'une mère qui va être en proie à des difficultés et qui va se battre comme une lionne pour continuer à faire son métier dans le respect de la citoyenneté de chacun, qui va dédaigner les ordres de la République, puisqu'on va lui proposer d'être ministre, mais elle va révoquer cette hypothèse.
C'est pas elle qui la révoque.
Oui, enfin, c'est un proche du Premier ministre.
Oui, oui. Elle s'y verrait bien.
Elle espérait bien.
Ah, ben, bien sûr, bien sûr.
Mais donc, qu'est-ce qui vous animait? Parce qu'évidemment, on ne peut voir ce film qu'en des temps un peu compliqués que nous traversons en ce moment, qui sont des temps de campagne présidentielle. Et on se dit que c'est un film qui nous alerte justement sur la représentativité vitale et nécessaire de nos élus de la République qui sont hélas bien malmenés en ce moment.
Oui, alors c'est pas forcément ça qui m'animait moi quand je jouais le film, même si je vous entendais, puis je me disais au fond un des sentiments qui la traverse, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, c'est l'idéalisme aussi, donc c'est le
combat,
le combat
pour la démocratie,
et puis c'est aussi les ambitions déçues. Mais il y a quelque chose de, pour employer un mot à la mode, de systémique aussi. C'est le système qui fait qu'à un moment donné, ces ambitions vont être déçues, et c'est le système qui en fait un individu qui pourrait être mauvais si tout d'un coup elle n'avait pas un sursaut et une prise de conscience, et donc qui fait que le film la sauve d'une certaine manière. Mais elle est animée par toutes ces tendances très contradictoires et toute cette ambiguïté. Elle est faite à la fois d'idéalisme et d'ambition personnelle et d'espoir déçu et de toutes ces choses, de toutes ces strates.
On va pas spoiler, comme on dit en bon français, le film, mais on peut dire que elle avait promis qu'elle s'en irait. Elle ne s'en va pas, finalement, contre toute attente.
Ben non, parce que comme elle a été rejetée d'un côté, elle veut reprendre le pouvoir de l'autre. C'est assez humain, y compris même en sacrifiant à tous les clichés sur la solidarité féminine. La première victime de son ambition déçue, c'est une femme, justement. C'est sa jeune collègue qu'elle ne va pas hésiter à mettre de côté. Et malgré ça, on lui garde quand même... on lui garde évidemment toute sa sympathie parce qu'elle a quand même un sursaut à la fin, voilà, qui fait que son idéalisme triomphe quand même. Donc c'est une vision à la fois assez réaliste, parfois assez noire, mais en même temps voilà,
qu'elle très combative.
Oui, mais je dis la vision de Thomas Akritov dans le film, c'est qui donne une image finalement assez encourageante de la politique. Qui ne fait pas l'économie de tout ce qui peut justement la rendre suspecte aux yeux de beaucoup, mais qui en même temps, in fine, la sauve.
Catherine Deneuve, je l'interrogeais sur son métier d'actrice et elle disait qu'une des définitions de son métier, c'était de durer et de trouver une fraîcheur dans chacun des nouveaux rôles. Est-ce que vous êtes d'accord, vous ?
Oui, bien sûr, c'est une définition durée. Tout à fait possible. Oui, durer, à condition qu'on en ait envie. Hein. Il y a ceux aussi qui préfèrent s'arrêter, d'eux-mêmes. Hein. C'est pas forcément
les... tellement. Hein.
Greta Garbo, elle s'est mis à arrêter d'elle-même quand même, ça peut arriver. Ça peut arriver de s'absenter aussi, de choisir autre chose. On parle pas de ça, hein. Effectivement, on parle de ceux qui ont envie de durer. Et ben, oui, c'est une définition tout à fait possible. Mais c'est pas la seule possible. Il y a aussi ceux qui choisissent de ne pas durer.
Et vous ménagez cette possibilité?
Ben, c'est peut-être pas mal de se l'aménager parce que, comme disait l'autre, puisque ces choses-là nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Donc, si ça ne dure pas, on peut toujours décider qu'on préfère s'en aller.
Donc, c'est une sortie honorable possible.
Par exemple. Mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses pour le moment.
Alors, vous parliez du hors-champ tout à l'heure en début d'émission. Et du hors-champ, il y en a pas mal dans la mise en scène de Thiago Rodriguez de La Cerisée de Tchekhov, en ce moment même au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et vous qui êtes au centre du plateau à de nombreuses reprises, quelquefois muette et silencieuse, on revient sur l'importance du silence, parce qu'effectivement, quand vous êtes au milieu dans des moments de découragement dû à votre personnage, vous n'avez pas besoin de parler, vous êtes là. Mais à d'autres... où ce sont d'autres personnes de La Cerisée qui parlent et qui interviennent, vous êtes hors champ, mais on vous voit. Et vous marchez, et vous dansotez, mais on vous voit.
Ah, mais tant mieux. Vous avez remarqué? Je ne savais pas.
Mais c'est intéressant, cette définition d'être acteur, c'est-à-dire de ne pas être forcément en pleine lumière, ni d'ailleurs en pleine déclamation. Qu'est-ce qui se passe là?
D'abord, c'est la rendre grâce au travail de mise en scène de Thiago Rodriguez. Bon, la Cerisette, c'est une pièce collective. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. On s'attache un peu au trajet de chacun des personnages, même si Lioubov est un peu la plaque tournante autour de...
Bon, c'est celle par laquelle...
Lioubov, c'est moi. Mais voilà, c'est une pièce où tous les personnages autour sont extrêmement vivants et existent à 100%, mais c'est la force de la mise en scène de Thiago Rodriguez que chacun des personnages soit à la fois actif et visible dans leur passivité. Et même quand elle est là, je dirais, au fond, est aussi un peu absente. Donc c'est vrai que le travail avec lui a été très agréable de ce point de vue-là, parce qu'il répond complètement à cette double dimension de Lioubov, d'être cette présence-absence constante. Comme vous dites justement, même quand elle parle, même quand elle est là, il y a quelque chose d'elle qui n'est pas là, il y a quelque chose d'elle qui est déjà dans le passé, ou déjà dans l'avenir d'ailleurs. Peut-être déjà, autant déjà encore dans le passé, que déjà dans l'avenir. Car la pièce, pourquoi elle est à ce point fascinante, et elle n'arrête pas de questionner les gens à toutes les époques, quelle que soit la manière dont on la montre, parce qu'elle a ces doubles mouvements constamment. Elle est à la fois nostalgique et en même temps elle fait aussi confiance au futur, avec toute la mélancolie, toute la tristesse que ça peut comporter et dont personne ne fait l'économie. On croit au monde futur aussi. Donc je crois que c'est ce double mouvement perpétuel dans la pièce, quelque chose qui nous tire en arrière et qui nous propulse en avant, que Lioubov ressent complètement en elle-même, qui est à ce point sur lequel il y a quelque chose de c'est un puissant fond. On peut pas dire c'est triste ou c'est gai, c'est les deux à la fois. On peut pas dire c'est tragique et c'est quand même optimiste, c'est aussi les deux à la fois. C'est évidemment la beauté et la grandeur de la pièce de Tchekhov.
C'est la définition de la vie.
Sans doute.
Artiste, entre autres. Artiste des états d'âme, dernière question. Moi, c'est comme ça que je vous qualifierais. Ça vous va?
Artiste, non.
Pourquoi?
Parce que c'est un mot qui m'a toujours gêné, que je ne peux pas m'attribuer. Et quand les autres se l'attribuent à eux-mêmes, ça me gêne terriblement.
C'est trop grand pour vous. Alors, oui. État d'âme.
État d'âme,
interprète des états d'âme.
Ça va. Oui.
Encore des choses à apprendre?
Apprendre pour vous, pour moi?
Pour moi, ça c'est sûr, mais pour vous?
Ah ben, c'est encore plus sûr. Sûrement. Alors, oui, à apprendre. Apprendre, ah oui, et encore, hein, parce que souvent... Non, mais c'est vrai, c'est une question qu'on pose souvent aux acteurs ou aux actrices. Qu'avez-vous appris? Souvent, dans la même phrase, on leur dit, alors, en tant qu'artiste, qu'avez-vous appris? Alors là, c'est une phrase qui est tellement déprimante pour moi. Qu'avez-vous appris? Rien. On n'apprend rien, mais rien du tout. Si, moi je peux apprendre comme tout le monde à, je sais pas, dans une recette de cuisine, ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend à faire un gâteau. Mais personne ne peut vous apprendre à jouer, non. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe en tous les cas. C'est mieux.
Merci beaucoup Isabelle Huppert, je viendrai manger votre gâteau.
Thank you.
C'est avec Vertige de Malik Djoudi que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Isabelle Huppert. Je rappelle votre double actualité. Un film qui va sortir le 26 janvier prochain. Vous en êtes l'actrice principale. Un film politique dans le bon sens du terme. Un film signé de Thomas Krutoff. Et puis, bien sûr, vous êtes en ce moment même au Théâtre de l'Odéon pour la mise en scène de Thiago Rodriguez de La Cerisée d'Anton Tchekhov, et ce jusqu'au 20 février. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Frédéric Quéroux qui était à la régie technique. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin et Marie Clément. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Mishka Sayas qui continue son Very Good Trip.